With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Rendez-vous consacré à la mock draft du site John Actu en direct live. Nous sommes à 4 semaines jour pour jour de l'événement et on va s'appuyer sur les choix de la Free Agency pour donner les préférences en fonction des équipes. Sauf qu'aujourd'hui, on est des fous, des gudins, comme disent les jeunes, et on vous propose une spéciale trade. Quelles seront les équipes qu'on voit monter? Qui quittera le premier tour? Combien de quarterbacks dans le top 5? Toutes ces questions avec mes trois comparses du jour, avec tout d'abord celui qui surveille les nouvelles des insiders pour connaître le 103e move des Pats pendant cette free agency, Mehdi Julien. Salut Mehdi.
Salut Greg, ça va bien?
Ça va et toi?
De très bien.
On a aussi celui qui surveille les nouvelles des insiders pour connaître le premier vrai move des Packers, au moins pour oublier Kevin King. Alexandre Locke est là. Salut Alex.
Salut Greg, salut messieurs. Bonjour à tous.
Autre fan des Packers, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il est l'expert des titres d'articles au sein de la rédaction, le fin gourmet, le défenseur des 35 heures, mais par jour, sachez-le. Sébastien Polomeni est des nôtres. Salut Seb.
Salut Greg, salut à tous.
Et je n'oublie pas, bien entendu, et comme toujours, Camille Saraben qui est avec nous pour assurer la technique. Et de mon côté, je ferai donc tout mon possible pour surveiller vos messages et vos observations sur le chat. J'ai déjà dit bonjour à 2-3 personnes. Il y a Grégory, excellent prénom. Gabriel qui est des nôtres également. Jérémy, Prince Mabousou, Guillaume également, Gusama qui est là. Donc salut à tous et j'essaierai encore une fois de surveiller ça de manière un tant soit peu disciplinée. Messieurs, avant qu'on commence, je me dois de planter le décor. J'ai déjà plus de respiration, c'est incroyable. On sera donc 4 à faire nos choix avec, dans l'ordre de sélection, Mehdi, moi-même, Seb et Alex. Et on enchaînera à tour de rôle, à moins qu'un échange ne me soit remonté, auquel cas on aura l'alerte bandeau correspondante. Je précise que pour des raisons évidentes, à savoir pour éviter toute cacophonie, la mock draft a été préparée un tant soit peu en amont. Et sachez aussi qu'on peut remonter du deuxième tour avec une équipe pour laquelle on piquait au premier. Si je prends un exemple, Mehdi, par exemple, qui va sélectionner avec les Jags en 1, aura lui seul la possibilité de faire monter les Jags au premier tour avec leur choix du deuxième. On a essayé de ne pas faire trop farfelu, mais de rendre la chose un peu fun. Donc là encore, n'hésitez pas à laisser vos avis, mais en essayant tout de même d'avoir un minimum de bienveillance. On va donc démarrer dès à présent avec, je le disais, donc Mehdi, qui va faire le choix pour les Jacksonville Jaguars. C'est insoutenable, Mehdi. Dis-nous tout. Qui vois-tu filer du côté de la Floride?
Bah, très grosse surprise, j'ai choisi Trevor Lawrence. Donc, on va dire choix le plus logique hein, possible pour l'équipe de Jacksonville. Je ne vais pas le présenter encore plus, hein, mais
oui, on en a dit pas. Il y a même ses futurs coéquipiers, si on peut prendre l'exemple, qui commencent déjà plus ou moins à teaser son arrivée du côté de la Floride. Donc oui, autant il y avait un débat pendant un temps avec Justin Fields, éventuellement, etc. Mais là, bon, très clairement, ça semble quand même être celui qui tient la corde. Visiblement, son pro day, on n'a pas dégoûté beaucoup. Donc, l'occurrence, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui te rejoignent sur cette sélection de Trevor Lawrence du côté de Jacksonville. J'ai une pression insoutenable, messieurs, il faut le savoir. Je sélectionne avec les New York Jets. J'ai d'ailleurs été menacé il y a quelques heures de cela sur les réseaux sociaux pour savoir qui était le meilleur choix pour la franchise de la grosse pomme. Et je vais en décevoir certains puisque je suis parti sur Zach Wilson, quarterback de BYU. Non pas que ce soit un choix personnel, c'est surtout que j'ai dans l'idée que Joe Douglas parte sur une nouvelle politique, un renouvellement important pour marquer le début justement du nouveau coaching staff. Et ça me paraît être la direction privilégiée actuellement du côté des Jets de prendre donc un nouveau quarterback. La question est toujours de savoir si c'est plus Wilson ou plus Fields qui tient la corde, mais là encore, de ce qu'on a vu du côté de son pro day à BYU, Zach Wilson de par le côté peut-être un peu plus, déjà sur la dynamique du moment et sur le côté peut-être un peu plus facétieux, un peu plus improvisation, peut en tout cas plaire un peu plus à une équipe NFL à mon sens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Zach Wilson en l'occurrence. D'ailleurs, je salue, il y a quelques fans des Jets sur le chat. Fais pas le fou, Greg, me dit Doudou Jets. Je crois que c'est un peu tard. Puisque, en l'occurrence, en effet, je pense que ou Sam Darnold restera et chaperonnera le nouveau quarterback en place, ou alors, en effet, ce sera une franchise avec un besoin de QB qui se manifestera le plus. Globalement, d'accord, messieurs, je sais pas s'il y en a un qui veut se prononcer sur le choix des Jets ou pas. N'hésitez pas, en
l'occurrence.
D'accord. Je valide aussi.
Ouais, logique.
Bon, bah très bien. Bon, on va passer désormais au choix de Seb. Le troisième choix, donc le nouveau choix des San Francisco 49ers, qui, comme vous le voyez d'ailleurs en bas de l'écran, était d'abord au Texan, puis a été envoyé du côté des Dolphins. Finalement, maintenant, il se retrouve du côté de la Californie. Qui vois-tu arriver du côté de San Francisco, Seb? Un autre choix qu'un quarterback, honnêtement?
Non, si tu montes en 3, c'est pour prendre un QB. Donc, forcément, le troisième du meilleur du plateau. Donc Justin Fields.
Ouais, ça me paraît quand même être... Est-ce que tu y crois à ces fameuses rumeurs de Mac Jones à l'heure actuelle? A priori non, si je me fie à ton choix.
Non, pour moi Jones c'est mon quatrième sur mon big board perso au niveau des QB. Je préfère Fields, voilà, plus polyvalent, plus athlétique, essayer de se sortir de situations compliquées, maîtrise tous ses lancers, moyenne, longue distance, courte distance, un beau petit mélange qui peut plaire à Kyle Shanahan, je pense.
Ouais, c'est un joueur qui apporte un peu plus de variété en tout cas que Jimmy Garoppolo, très clairement, surtout quand on sait le travail qui est mis au niveau de la ligne pour offrir justement des brèches. C'est des brèches qui pourraient être parfaitement être exploitées en effet par le quarterback d'Ohio State. Je te rejoins largement là-dessus. On passe au quatrième choix, messieurs, si tout le monde est globalement d'accord là-dessus. Choix fait par Alex pour les Atlanta Falcons. Sauf que vois-je? Un trade et demander un trade justement par l'intermédiaire de Seb qui remonte avec les New England Patriots en quatrième, donc les Pats. C'est pas forcément une surprise en soi, mais dis-nous un petit peu ce qui t'incite à monter en quatrième choix et à faire ce trade avec les Falcons.
Ma tête sur un bûcher, c'est parti. Alors je suis parti sur Mac Jones. Voilà, quatrième choix, quatrième QB. L'expérience Cam Newton donc n'a pas donné entière satisfaction, autant préparer l'avenir avec Jones. Alors certes, ce n'est pas le plus flashy, ce n'est pas le plus athlétique, mais c'est solide, c'est 77% de passes complétées l'an dernier. Il est bon dans les tracés intermédiaires, ça tombe bien, New England n'a pas de receveur. Donc il y a de quoi se faire plaisir avec les deux Titans. Ouais, il a eu un casting de rêve à Alabama, mais s'il n'avait pas eu le niveau, je pense que Saban ne l'aurait pas fait jouer. Et bon, connaissant la connexion entre Saban et Belichick, je pense qu'il a dû lui donner 2-3 pistes pour la suite. Donc, je pars sur Mac Jones en 4 avec New England.
Ouais, tout à fait. Alors, on nous dit que ça va coûter cher sur le chat. Alors, on n'a pas complètement discuté. En tout cas, on ne s'est pas complètement concerté sur les contreparties. A priori, il y a quand même, je pense, au moins un deuxième tour de cette année, un premier de l'année prochaine. Si on suit la hiérarchie et la possible surenchère par rapport à d'autres franchises. Mais en tout cas, oui, c'est pas forcément quand on voit par exemple ce qu'ont mis les Niners pour remonter un tant soit peu au troisième choix dans leur échange avec les Dolphins. C'est sûr que s'il y a un autre candidat pour le quatrième choix, ça peut en effet être assez conséquent dans la balance. Mais je pense que les Pats s'y sont préparés vu que la free agency a quand même été assez importante pour essayer de rendre cet effectif le plus complet possible. Mehdi, je suis obligé de me tourner vers toi. Déjà d'accord pour monter au quatrième choix, est-ce que tu es plutôt d'accord sur Mac Jones ou est-ce que tu partirais plutôt sur Trey Lance que tu avais sélectionné d'ailleurs lors de la précédente mock?
Alors je suis assez d'accord avec Seb parce que Mac Jones c'est un QB de système, on va dire comme on aime bien appeler ça pour Brady, je pense que ça y collerait bien au playbook offensif des Patriots. Après je préfère Trey Lance par rapport à son plafond et qui me semble un peu plus élevé, mais Mac Jones me semble un choix assez sûr, quoi.
Très bien. Bon, bah, il n'y a pas d'avis de discordant, pardon. Un Trey Lance quelque part? Non, Seb, Alex, ça vous va globalement?
Mac Jones, c'est effectivement c'est le profil pour les Patriots. Effectivement, la compensation que tu as donnée me semble plutôt cohérente. Peut-être qu'il y aurait un tour supplémentaire, un quatrième ou un cinquième. Mais vu comment ils se sont renforcés au poste de tight end et quelques receveurs. Mac Jones, il a profil, et comme l'a dit Sébastien, la connexion Alabama Patriot avec les deux coachs, ça me semble être un move intelligent.
Ouais.
Alors, ce serait pas une surprise.
Ouais, clairement. Sur les contreparties, j'ai Edon ou Aidan, je le prononçais à l'irlandaise, Aidan, qui nous dit Gilmore plus un deuxième tour. Ça peut être compliqué, il faut le payer, Stéphane Gilmore, et je crois que du côté d'Atlanta, les caisses sont un peu vides. Donc, on va passer désormais au cinquième choix. Justement, Mehdi, je te redonne la parole, parce que tu vas piquer pour les Cincinnati Bengals. Dans quelle direction doivent aller Zach Taylor et la franchise de l'Ohio?
Alors, je partirai pour protéger le bureau. Et je dirais Penny Sewell aux Bengals. Donc, je pense qu'il a suffisamment de receveurs pour ne pas en prendre un tout de suite. Il va prendre Chase, Smith ou Waddle et partir sur le meilleur tackle possible. Parce qu'on a vu que la ligne offensive des Bengals était très faible quand même cette année. Il faut protéger Burrow.
Alors, il y a un petit point d'interrogation, monsieur, vous me direz. C'est vrai que notamment la signature, je pense, de Riley Reiff pendant l'intersaison a un petit peu redistribué les cartes. Maintenant, on s'intéresse au poste de tackle. Il y a peut-être la ligne intérieure aussi qui est à considérer. On sait que Sewell peut être un très bon garde dans un premier temps. Est-ce que vous partiriez plus sur Sewell ou sur Ja'Marr Chase, par exemple, qu'on évoque, l'ancien compère de Joe Burrow? Alex ou Seb, votre avis là-dessus?
Vas-y, Seb.
Moi, Sewell. Pas de souci. Il faut protéger ton investissement. Tu as pris le meilleur quarterback possible l'année dernière. Donc là, tu prends le meilleur tackle possible cette année. Donc... le voir tomber si bas est une aubaine, pas d'hésitation.
Ouais, je suis d'accord aussi. Il revient d'une grosse blessure causée en partie par la porosité de sa ligne. Si on ne veut pas le perdre tout de suite, il faut le protéger. Il y a une incertitude en plus avec Jonah Williams. On ne sait pas tellement ni quel est son poste idéal, ni s'il a vraiment le niveau qu'on attendait de lui. Donc, il faut protéger Burrow.
Ouais, très clairement, surtout qu'on est sur une classe quand même assez profonde de receveurs. Hein, donc, il y aura déjà, à mon sens, j'ai peut-être dans l'idée que Sewell est peut-être le meilleur joueur disponible par rapport à Chase, si on compare les deux hommes. Et oui, en plus, il y a peut-être un luxe qu'on peut avoir sur le poste de receveur qu'on n'aura peut-être pas sur le poste de tackle si on vient à sélectionner au début du deuxième tour. On passe au sixième choix et je m'y colle, messieurs. Les Miami Dolphins sont sur l'horloge et justement, Ja'Marr Chase n'ira pas du côté de l'Ohio. Il prendra donc la direction de la Floride. Je suis allé plutôt sur un receveur parce que même si il y a eu la signature notamment de Will Fuller pendant l'intersaison en provenance de Houston, grosse connexion derrière Houston-Miami ces derniers mois, c'est vraiment une complicité comme on n'en fait plus. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être aussi dans la volonté d'ajouter un deuxième receveur de taille, de gabarit. C'est peut-être la seule explication que je vois sur le fait qu'il soit monté en sixième choix. Il y a l'hypothèse Kyle Pitts hein, qui est évoquée par beaucoup, notamment hein, pour éventuellement épauler Mike Gesicki dans des profils qui seraient totalement différents. On rappelle que Pitts, ce n'est pas du tout le tight end traditionnel. Mais ouais, je suis plus allé sur un Ja'Marr Chase qui peut être vraiment une menace vraiment très intéressante d'un point de vue profond et laisser à Devante Parker ce côté un peu plus receveur de possession qui pourrait permettre à Miami d'avoir énormément de menaces et à Tagovailoa de retrouver... justement un nombre de cibles aussi conséquent que ce qu'il pouvait avoir du côté de Bama. Est-ce que cet avis vous va, messieurs?
Oui, complètement.
Très bien. Bah, écoutez,
ça a fait un trio très complémentaire, effectivement, pour Tagovailoa. C'est, les trois profils sont bien concordes les uns avec les autres. Je trouve que c'est certainement le meilleur choix pour eux.
Alors, juste, je précise, puisqu'il va forcément y avoir cette question des receveurs, justement, pendant la draft. Ça aurait pu être Devonta Smith et Jalen Waddle, deux joueurs qui ont joué avec Tagovailoa du côté d'Alabama, bien entendu. J'avoue que Jalen Waddle, il y a l'aspect blessure qui, je pense, ça c'est pas ce que moi je préférais, mais c'est ce qui, je pense, peut freiner certaines équipes. Il y a peut-être la blessure de Jalen Waddle malgré l'explosivité du bonhomme. Et Devonta Smith, je ne peux m'empêcher de penser que son gabarit va en effrayer plus d'un. Si un Jerry Jeudy avec les qualités qui étaient les siennes est passé un peu plus en retrait, notamment de par son gabarit, j'ai pas de mal à penser que Devonta Smith, de par son côté un peu frêle, en tout cas la manière dont il est jugé par les franchises, ça peut clairement lui jouer des tours. Et là, au sixième choix, c'est pas la direction que je les vois prendre. Le septième choix, on repasse à Seb à présent avec en l'occurrence les Detroit Lions qui sont sur l'horloge. Vers qui les vois-tu aller, Seb?
Alors, des trous de partout à Détroit. Mais je suis parti sur Jalen Waddle, parce qu'avec les départs de Kenny Golladay et Marvin Jones, il n'y a plus que Breshon Perryman et Tyrell Williams en tête de gondole, donc ça fait un peu léger pour épauler Jared Goff. Donc, il y a la vitesse pour lui. Je pense qu'il pourra devenir rapidement numéro 1. À l'extérieur d'un slot, il peut créer des problèmes de partout. Et après, il faut quand même se rappeler qu'avant sa blessure, c'était lui la cible numéro 1 à Alabama, quand même en termes de yards par réception. Il est capable de gagner des yards après réception. Donc, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Devonta Smith, par rapport à son gabarit, ça va être un tout petit peu léger. Donc, je suis parti sur Waddle.
Oui, oui, ça, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que voilà, je parlais de la blessure qui peut jouer contre lui. Peut-être pas au point de le voir descendre aussi bas. Et septième choix, ça me paraît pas mal. Surtout dans une division où, certes, par exemple, du côté des Bears, on a laissé filer Kyle Fuller. Mais il y a Minnesota qui a quand même signé Patrick Peterson. Il y a Green Bay qui a notamment Jair Alexander. T'as vu, j'ai pas dit Kevin King. Hein. Mmh. Donc, du coup, faut quand même s'armer un petit peu pour espérer mettre Jared Goff dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que la direction sur le poste de receveur paraît quand même assez flagrante. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres avis éventuellement là-dessus, ou ça vous va globalement?
Ça me paraît bien.
Très bien. On passe au 8e.
Ils ont besoin de cible.
Oui, il paraît. Ouais. Oui, je serais pas étonné qu'il n'y ait pas qu'un seul receveur sélectionné lors de cette draft. En tout
Par
cas,
contre,
dans les
effectivement,
principaux
tours. Effectivement, Jalen Waddle contre Kevin King. Ça peut faire des. Ça peut être vilain.
Mais non, il est lobé, Kevin King, mais il court vite quand même, non?
Ah non, j'aurais. Bah, je sais pas, écoute.
Bon, on va pas faire un
procès. La dernière fois qu'on l'a vu jouer.
Il y aura d'autres occasions pour le faire, j'en suis persuadé. Bon, en tout cas, on en profite pour saluer Riri Fifi qui nous dit: Zach Wilson pour les Jets, c'est mon rêve. Eh bien, écoute, c'est pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas, je suis content en tout cas d'avoir satisfait un de nos auditeurs. J'en suis ravi et bienvenue à toi, bienvenue à Degan également qui nous a rejoint à l'instant sur le chat. Le 8e choix, Alex, ça va enfin être à toi, vu que Seb t'a piqué ton choix tout à l'heure. Ton choix que tu pourras faire tout à l'heure au 15e, a priori. Le 8e choix donc des Carolina Panthers, et une aubaine se présente à toi, mais la question est-ce un quarterback ou le meilleur joueur disponible?
Eh bien, ça sera le meilleur joueur disponible. Pour ça, alors, les Panthers, à mon avis, ils auraient bien aimé monter dans la draft, mais malheureusement, le rival Atlanta a refusé leur offre et a accepté celle de New England. Donc, on se tourne vers le meilleur joueur disponible, à savoir Kyle Pitts, tight end de Florida, et certainement le meilleur joueur qui reste sur le board global, toutes positions confondues. C'est certainement aussi le meilleur athlète, au moins offensivement, c'est le meilleur athlète de cette QV. Il y a une solution pour essayer de relancer ou de lancer tout simplement Bridgewater, c'est de lui donner une cible majeure. Il a déjà Robbie Anderson sur les extérieurs. Kyle Pitts, ça me paraît être le bon compromis sur les différents tracés, sur les différentes distances, court, moyen ou en profondeur. Il a des super mains, il est très bon sur les catchs contestés. Idéal pour un quarterback qui se cherche encore un petit peu de certitude.
Oui, ça reste une position à besoin, en effet, de toute façon. Hein. Bon, on a aperçu de temps en temps Ian Thomas l'année dernière, mais si on le compare à Kyle Pitts, en tout cas le potentiel que peut avoir le bonhomme, on a vu qu'il a fait un excellent pro day. Donc, je pense que si la situation se présente, faut avoir encore une fois, oui, s'il y a un QB qui est disponible également dans l'équation, mais si la situation se présente, c'est pas dit forcément que les Panthers aillent vers un quarterback, même si Bridgewater a certainement pas rassuré à 100% en 2020. D'accord là-dessus, messieurs, globalement ? Oui, vas-y, Alex, excuse-moi.
Non, je disais, il a annoncé qu'il voulait être le meilleur tight end de l'histoire de la NFL. On a d'ailleurs un très bon papier sur le site à ce sujet, que je vous invite à lire. Et si déjà il arrive au niveau de ce qui est jusqu'à présent les meilleurs tight ends, Gonzalez, Gronkowski, Kelsey, ça sera déjà une très très bonne pioche pour Carolina, même en 8e spot.
Ouais. Donc un avis, messieurs, ou est-ce que certains seraient partis vers un QB?
Les deux choix me semblent assez bons, mais après, Pitts, c'est vraiment un choix, on va dire, générationnel.
C'est ça. C'est un des rares tight end, encore une fois, puisque c'est le nom qu'on donne à sa position. On rappelle que le bonhomme est assez versatile, mais ouais, ça peut être un des rares tight end à être sélectionné dans le top 5 ces dernières années. Je me demande si le dernier n'est pas Vernon Davis. J'ai un doute sur l'année en question. Faudrait que je recreuse ça. Mais en tout cas... En tout cas, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un tight end possiblement sélectionné extrêmement haut.
Joe Kelson, il y a 2 ans.
Il était 8, non?
En 8,
top 10, ouais.
Oui, non, voilà, mais je pensais plus au top 5. Mais okay. C'est pour ça, ouais, justement. Mais c'est vrai que Kelsen avait été drafté relativement haut. En l'occurrence, déjà les Lions sélectionnaient dans le top 10 à l'époque. Juste, j'en profite, parce que du coup, j'ai les messages qui ont été laissés sur Waddle, notamment à Détroit. Baptiste qui nous dit c'est très bien. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit ? Attends. Ouais. J'aurais pris Smith perso, mais Waddle, c'est nickel. Ouais. Il y a trois messages qui se suivaient. Et Photo Biedo qui nous dit Waddle me semble plus fort que Smith. Là encore, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours ce côté.
Il est plus flashy.
Voilà, c'est ça. C'est très clairement, il y a ce côté vraiment capable d'exploser qui avait joué en faveur de Rux par rapport à Judy, et je ne serais pas étonné que ce soit de nouveau le cas. Un petit récapitulatif, messieurs, des huit premiers choix pour rappeler donc que Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, est parti à Jacksonville. Zach Wilson, quarterback donc du côté des Jets. On a un autre quarterback, donc Justin Fields à San Francisco. En quatrième choix, New England monte pour récupérer Mac Jones. Première draft de l'histoire, hein, a priori, si c'est ce scénario qui se passe dans quatre semaines, où on aurait donc quatre quarterbacks sélectionnés aux quatre premières positions. Le cinquième choix, donc Penei Sewell, tackle du côté de Cincinnati. Jamar Chase, receiver du côté de Miami. Le septième choix, donc Jalen Waddle du côté de Détroit. Et le huitième choix, donc Tyden Kyle Pitts du côté des Panthers, que des joueurs offensifs. Donc dans notre top 8, ça va peut-être changer, quoique. Pour la 9e position, réalisée par Mehdi, les Denver Broncos, il y a un quarterback disponible. Est-ce que c'est la direction que tu prends ?
Je vais faire un choix qui divise, je pense, pas mal de supporters des Broncos. Je vais laisser une saison à Locke en plus et je vais partir sur un cornerback. Je vais partir sur Patrick Surtain. Donc, je pense qu'ils ont, de toute façon, ils ont des besoins un peu partout en attaque et en défense. Et je pense que renforcer la secondary, ça serait pas mal. Et je pense que comme Locke, Lance n'est pas prêt, et je pense que ce serait mieux de laisser encore Locke une petite chance encore.
Un avis, messieurs ? Alex, Seb ?
Moi, je suis d'accord avec Mehdi sur le fait de laisser une année de plus à Locke, mais Corner, je sais pas. Ils ont déjà signé deux joueurs. Alors, je suis pas convaincu par Darby, et Fuller, il a signé que pour une saison, si je me trompe pas. Donc, oui. Après, certaines, ça peut être une solution sur le long terme. Bon, ils étaient tellement dépeuplés au poste de corner que trois joueurs, pourquoi pas. Mais par contre, sur le fait de ne pas prendre un QB, je suis d'accord.
Seb, t'as un avis là-dessus ?
Ouais, le QB, oui. Alors, si c'est pour prendre Trelance, ouais, garder Drew Lock, c'est encore mieux. Non, je ne serais peut-être pas allé sur un corner, même si de plus en plus, les schémas défensifs s'orientent vers trois corners ou trois safety. Je serais peut-être allé sur un linebacker avec Micah Parsons. Mais bon.
Ah, ça, c'est le côté fan des Pats de Mehdi. Il veut 6 DB dans chaque équipe. Mais en tout cas, oui, voilà, ce sera encore une défense assez fournie, a priori. Mais c'est vrai que c'est compliqué de déterminer la position de Denver, qui pourrait très bien trade-up, par exemple, pour aller chercher ou la 4e ou la 5e place, éventuellement. On n'est sûr de rien, mais voilà, c'est vrai que. Oui, aussi trade-down, bien entendu. Ouais, y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si en running back, ils vont rester sur cette. Sur le duo Freeman-Gordon. Donc, en l'occurrence, oui, il y a pas mal de directions qui peuvent être prises par les Broncos. On passe au 10e choix que je vais donc réaliser avec les Dallas Cowboys. Sauf que vois-je ? Un trade est demandé. Alex se venge pour remonter donc au 10e rang avec les Chicago Bears.
Oui, les Bears qui montent en 10 pour sélectionner suspense. Trelance quarterback de North Dakota State. On l'a vu, Chicago se cherche un quarterback. Ils en ont deux qui n'offrent pas vraiment de certitude, sans certainement pas des solutions à long terme. Matt Nagy joue sa tête cette année, clairement. C'est sa dernière solution, c'est de trouver enfin le quarterback que Chicago cherche depuis un peu plus de 100 ans, hein, sans vouloir être désagréable.
Ça, c'est fait.
C'est gratuit.
Donc, Trelance, c'est le meilleur quarterback qui reste disponible sur mon board actuellement. Il a une grosse puissance de bras, il est bon, il est mobile, il est bon à la course. Donc, peut-être que Nagy, qui se veut être un génie offensif, peut arriver à créer des schémas créatifs et s'en servir aussi bien dans les airs qu'au sol et créer aussi un petit peu de mismatch, comme on dit, pour ses adversaires. Il manque de précision, il est brut, il n'a pas de référence au très haut niveau parce qu'il évolue en deuxième division universitaire. Cependant, le potentiel semble être là et je pense que les Bears doivent prendre ce risque-là.
Oui, bah en tout cas, oui, c'est une occasion, pardon, qui se présentera pas souvent. En l'occurrence, c'est vrai que il y a peut-être la position de tackle qui peut être à surveiller, notamment celle de tackle gauche. Mais c'est vrai qu'en défense, même s'ils ont perdu notamment des pièces importantes sur le poste de corner avec justement le départ de Kyle Fuller, ça paraît quand même un peu plus complet que ce qu'on voit en attaque. C'est un euphémisme. Donc, ouais, très clairement, prendre la direction de l'offensive et encore plus pour avoir un jeune à couver derrière Andy Dalton, voire Nick Foles s'il le garde. Hein. Rien n'est sûr à l'heure où on se parle. Hein. Du côté de Chicago, le poste de quarterback, ça reste imprévisible. Donc, oui, ça peut en tout cas être une solution privilégiée par la franchise de l'Illinois. Seb, Mehdi, un avis là-dessus?
Si tu montes en 10, oui, c'est pour prendre un QB. Donc, 5e QB de la liste, Trey Lance. Bon, je ne suis pas le plus grand fan. Hein. C'est très, 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 très brut. Il y aura beaucoup de travail. Mais bon, cette année, je pense pas. Mais peut-être pour les deux ou d'ici 2, 3 ans. À
Mehdi, t'as
voir.
dit quelque chose?
Après, si les Bears sélectionnent Trey Lance, je pense pas que Nagy va pouvoir s'appuyer dessus dès la première saison. Donc, il va devoir faire avec Dalton ou Foles et ça va être compliqué s'il joue sa tête avec Foles ou Dalton.
C'est ça. A priori, il faut quand même espérer que le quarterback titulaire, si on suppose en effet que Trey Lance ait besoin d'être couvé, donne un minimum satisfaction pour au moins donner ce fameux sursis à Matt Nagy. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Hein. Si ça fait. Bah c'était. J'ai oublié son nom, bien sûr. C'était Jeff Fisher, non, qui avait pris Jared Goff et qui, finalement, un an après, était
Oui.
parti avant qu'on puisse vraiment voir ce que valait Jared Goff. Donc, bon. Pourquoi pas? En l'occurrence, juste je dénonce l'attaque de Sylvain hein, qui nous dit, ça se voit que c'est un fan des Falcons qui anime le podcast, interdiction de prendre des joueurs en défense. Ça, c'est très moche. Il y a peut-être une part de vrai, mais en tout cas, c'est pas très très beau comme attaque. On a parlé donc des Chicago Bears qui remontent en 10e choix. En 11e choix, c'est donc Sébastien qui va sélectionner avec les New York Giants, en tout cas qui devait. Puisqu'on a de nouveau un trade en 11e position. Et cette fois-ci, ce sont les Miami Dolphins que je représente qui montent de leur 18e position pour passer en numéro 11. Pourquoi, messieurs? Puisque il y a quand même une opportunité qui se présente là en 11e choix. Ce ne sera pas d'ailleurs le premier défenseur, puisque Patrick Surtain a été drafté d'ores et déjà avec les Broncos. Micah Parsons est sélectionné par les Miami Dolphins. Alors selon moi, la position de linebacker reste quand même un besoin du côté de Miami, très clairement, parce que je suis pas sûr qu'avec McKinney et Baker, notamment en fer de lance, ça suffise. En dehors d'Emmanuel Ogba, je les vois pas avoir forcément un pass rusher attitré. Et même si, par exemple, un Kyle Van Noy a le même profil qu'un Zaven Collins un peu plus loin, je pense que l'opportunité d'avoir un joueur aussi complet que Micah Parsons, notamment dans l'apport sur le pass rush, ça peut être quelque chose qui peut plaire à Brian Flores pour l'intégrer dans ce fameux front 33 et dans cette capacité à être dangereux sur n'importe quel secteur de jeu. Donc j'avoue que voilà, l'aubaine de prendre Micah Parsons pour Miami, ça me paraissait quand même assez inévitable. En tout cas, ouais, quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer très clairement en 11e choix. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, messieurs? Est-ce que ça vous paraît riche, cette sélection de Micah Parsons? Le
Pas du
premier qui
tout.
veut.
Non, pas du tout, Richie. Non, non. En plus, ils ont le draft capital Miami pour monter. C'est certainement le chaînon manquant dans leur défense. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un trade-up intelligent et une sélection intelligente.
Très bien. Seb, Mehdi, vous avez un avis particulier ou on peut enchaîner?
Non, c'est bon, parfait.
Comme Alex.
Très bien. Bah Alex, justement, on va te donner la parole avec le 12e choix puisque tu sélectionnes avec les Philadelphia Eagles. No pressure, mais à mon avis, Victor Roulier n'est pas très très loin. Il faut savoir qu'il a eu des propositions de trade et qu'il les a refusées.
Oui, Philadelphie a beaucoup de trous. Effectivement, si Victor était là, il dirait pas le contraire. Et là, en l'occurrence, c'est une aubaine pour eux en 12e choix. Sur mon board personnel, il reste le meilleur receveur de la QV, d'après moi, bien sûr. Devonta Smith, receveur d'Alabama, est disponible. Donc, je me jette sur cette opportunité pour essayer de lancer Hurts dans les meilleures dispositions. Ils se connaissent, ils ont joué ensemble à Alabama ça remonte 2, 3 saisons avant qu'ils partent à Oklahoma. Donc ils se connaissent. c'est un besoin vital. On a souvent parlé de la mauvaise escouade de receveurs des Patriots. Je pense que celle des Eagles, elle est vraiment pas loin derrière. Donc, il y a besoin de cibles. J'aurais pu considérer le poste de corner qui a un besoin aussi, mais là, c'est une opportunité inespérée en 12, d'après moi. Malgré, comme tu l'as dit tout à l'heure, son physique qui peut poser question, qui peut peut-être inquiéter. Il a des super mains, il est explosif, hein, c'est vraiment un top, top receveur.
Oui, c'est ça. Après, la question, c'est de savoir oui, jusqu'à quel point ça peut jouer contre lui. C'est sûr que je ne sais pas s'il y a des équipes qui le considéreront dans le top 10, mais j'ai quand même du mal à voir des équipes, en effet, sortir au-delà du top 15, en l'occurrence. Alors, juste une information que je n'ai pas donnée, hein. Excuse-moi Alex, on revient sur le choix tout à l'heure, mais c'est la question des compensations, puisque je vois que ça a été discuté tout à l'heure sur le chat. Sur l'échange qui voyait Chicago monter en 10, on avait plutôt parlé alors, d'un deuxième tour, je crois que tu m'avais dit éventuellement peut-être un premier tour dans la balance également.
Ouais, je pense qu'on va les voir arriver gros comme un camion Chicago. S'ils veulent monter, on va leur demander un premier tour. Passer de 20 à 10, je pense pas qu'ils puissent éviter le premier tour de 2022.
Et pour l'échange donc, qui voyait donc Miami monter en 11 à la place des Giants, j'étais parti de ce que je voyais sur le tableau des trades sur un deuxième tour, ce qui serait pas non plus farfelu, sachant que les Dolphins, sauf erreur de ma part, en ont deux. Donc, ce serait pas non plus. Et en plus, ce serait le deuxième du milieu de deuxième tour, a priori. Ce qui leur permettrait, par exemple, de récupérer potentiellement un running back en début de deuxième tour et d'avoir une équipe relativement complète. Excuse-moi, du coup, je reviens sur les Eagles. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, sur cette sélection de Devonta Smith du côté de Philadelphie pour s'y retrouver avec Jalen Hurts?
Je suis d'accord.
Oui, pas de
souci. Je demande trop dans l'équipe le meilleur joueur disponible. C'est bien.
Ouais, c'est ça. Il y a d'autres. Oui, je pense qu'ils peuvent récupérer. Il y a d'autres besoins dans cette équipe, très clairement, on l'a dit, mais ouais, ça peut peut-être être compensé un petit peu plus tard, en l'occurrence. Le 13e choix, Mehdi, on revient vers toi pour la sélection des Los Angeles Chargers. Qui vois-tu donc arriver du côté de la Californie? Peut-être un tackle pour protéger Justin Herbert?
Bah voilà, même raisonnement qu'avec les Bengals avec Burrow. Je prends un tackle, je prends Rashan Slater, qui est pour moi le second meilleur tackle de la draft. Donc, même raisonnement, faut protéger. C'est un joyau Herbert, il faut le protéger. Il a déjà des receveurs et je pense qu'ils pourront aller chercher d'autres receveurs à la draft. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Oui, ça me paraît assez cohérent. De toute façon, là, on est sur une position, même avec le départ de Penei Sewell, aux alentours du 13e choix, messieurs, ça paraît compliqué quand même de prendre une autre direction. Ça se joue peut-être entre Slater et Darius, a priori. Pardon, je veux pas oui, faire oui, non, de mais... préférence, du coup je te donnais les noms, mais autant pour moi.
Clairement, là c'est purement une question de goût. Slater ou Darisso, bon, pour le coup, moi j'avais l'autre goût, mais c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent.
Bon, il va pas traîner l'autre, je pense. Il y a de fortes possibilités en tout cas qu'on le voit assez vite. Alors juste, je me permets de répondre à Guillaume qui sur le chat nous demandait pour les trades qui détermine les compensations. Alors j'avoue que je m'appuie sur des tableaux qu'on peut retrouver sur internet, hein, le fameux système de points, mais voilà, c'est vraiment un titre purement indicatif. On a vu ces dernières années qu'il y a des équipes qui en effet étaient même capables de surpayer ou de s'arranger différemment du moment que les deux franchises sont d'accord, mais là voilà, c'est juste à titre indicatif. On s'appuie globalement sur ce tableau. Après, on a vu par exemple sur l'échange de Chicago, on n'était pas forcément d'accord. Mais oui, je rejoins ce qu'a dit Alex notamment, ça peut être un peu plus cher payé de par le besoin et le fait d'arriver en effet de manière un peu trop flagrante, si je peux parler ainsi. 14e choix dont je vais m'occuper, les Minnesota Vikings sont sur l'horloge et je vois déjà son nom sur le chat. Les gens le savent. Rashan Slater a donc pris la direction de la Californie. Eh bien, Christian Darisso ira du côté de Minnesota et Dalvin Cook est le premier content, puisque là, en l'occurrence, en termes de tackle, qui va offrir d'autres trous sur le run block, je pense que ça va être sympa. C'est ce qui m'a notamment incité à partir plutôt sur Christian Darisso avec ce choix. Et puis, oui, ça fait quand même longtemps maintenant qu'on n'a pas eu un left tackle très dominant du côté de Minneapolis. Donc voilà, Christian Darisso apporte ce côté vraiment intense, physique, tout en étant extrêmement mobile. Donc vraiment un joueur complet qui pourrait enfin donner pleinement satisfaction du côté de Minnesota pour protéger le quarterback la saison prochaine. Donc a priori, Kirk Cousins, c'est à l'instant où on se parle. Donc ça me paraît indéniable de prendre en 14e choix ce que je considère être l'un des meilleurs joueurs disponibles, à savoir Christian Darisso. Seb, Mehdi, Alex, ça vous va globalement? Passe au second choix ou est-ce que vous auriez vu une autre direction?
À mon avis, il n'y a pas vraiment d'autre direction. Dans la mesure où ils ont coupé Riff, ils ont vraiment besoin d'un left tackle. Donc, Tarisso, c'est une opportunité aussi pour eux.
Juste, je me permets de répondre également sur le chat. J'enverrai la parole à Seb ou Mehdi. Photo Biedo qui nous demande, vous faites un ou deux tours. Alors, pour la mort, en l'occurrence, on n'en fait qu'un seul. Hein. Mais on vous rappelle que la draft live, elle, se fera en deux jours avec donc la présentation et l'analyse donc des trois premiers tours de la draft. Donc, à retrouver donc les 29 et 30 avril prochains. Aujourd'hui, on va se contenter d'un seul tour. Seb, Mehdi, globalement d'accord avec la sélection d'Arisso?
Oui, tout à fait. Ouais.
Pareil.
Ok, bah, on passe au 15e choix avec Alex qui était donc sur l'horloge après son échange réalisé donc avec Sébastien, donc Atlanta, hein, qui redescendait de sa 4e place en 15e choix. Tout cela, c'était avant un trade, un nouveau trade. Atlanta qui trade down pour la 2e fois. Je précise qu'Alex m'a consulté avant de le faire. donc, Atlanta qui redescend. Avec une équipe d'ailleurs qui a trade down précédemment lors de cette mock draft, les Dallas Cowboys, qui remontent en 15e choix pour sélectionner un défenseur aux surprises, Kwity Paye, defensive end de Michigan, qui prend la direction de Dallas. Ça me paraît quand même assez évident en dehors de, dans le sens où en dehors de Marcus Lawrence, il n'y a pas vraiment de gros pass rusher. On peut attendre éventuellement quelque chose de Bradley Anae, hein, qui a été drafté l'année dernière. Mais c'est vrai que ça manque peut-être de grosses menaces d'impact sur le pass rush et que Kwity Paye a quand même cette capacité à être extrêmement menaçant. On l'a dit, en termes de, ne serait-ce qu'en termes de statistiques, ça a été un des joueurs les plus menaçants sur le pass rush. Et s'il est capable d'apporter ne serait-ce que des brèches dans un premier temps pour Lawrence et ses coéquipiers, ça va déjà donner un autre visage, une autre dimension à cette défense texane. Donc ça me paraissait compliqué, même si on parle de préparer le futur après Tyron Smith, même si on parle d'autres positions, par exemple celle de cornerback en défense, déjà mettre du pass rush, ça mettra déjà un peu moins de pression sur ce backfield défensif et ça rendra, comme je le disais tout à l'heure, cette défense de nouveau menaçante. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, le premier d'entre vous, Seb, Alex, Mehdi?
Très bien pour moi, ouais. Parfait. C'était soit ça, soit à corner, mais il fallait rester en défense. Donc, c'est le meilleur pass rusher dispo en 15e, donc Kwity Paye, choix logique.
D'accord aussi, il faut un pass rusher de plus, parce que pour aider Lawrence, il ne peut, peut pas rester seul.
Et pareil.
Alors, Will nous dit sur le chat, attendez, j'ai perdu le message, Caleb Farley est en train de chuter. C'est vrai qu'on rappelle, il y a eu cette fameuse histoire d'opération du dos, hein, qui était prévue pour un joueur qui n'a quand même pas joué en 2020. C'est sûr qu'on en avait parlé avec Jean-Michel, notamment dans la preview des defensive backs. C'est un des joueurs qui, sur le papier, était le plus attractif, mais c'est vrai que forcément, c'est des choses qui peuvent inquiéter. Et on en reparlera sûrement tout à l'heure, hein. C'est pas dit qu'il soit pas au premier tour, mais en tout cas, oui, par rapport au top 15 qui lui semblait plus ou moins promis, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Alors, juste pour la précision également, Denver Broncos FR qui nous dit très bon choix. Faudra juste que tu précises lequel, du coup, on va un peu vite. Donc, voilà, n'hésite pas à nous repréciser un petit peu le choix auquel tu fais référence. Pour la contrepartie, en l'occurrence, pour cet échange, donc, qui voit Dallas monter, j'avais évoqué un troisième tour, qui n'est pas non plus surveillé pour monter de 5 positions, qui laisse quand même à Dallas un choix intéressant au deuxième pour éventuellement faire des choix, sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, il y avait le trade-up de Chicago qui leur permettait de récupérer d'autres choix. Donc c'est pas non plus complètement, ce ne serait pas complètement se dépouiller non plus pour remonter à cette 15e position. On termine cette première partie de premier tour par Alex, qui sélectionne donc avec le 16e choix pour les Arizona Cardinals. Quelle direction prends-tu, Alex?
Eh ben, dans une équipe qui est de plus en plus complète de saison après saison, il y a un trou évident, c'est le poste de corner avec le départ de Patrick Peterson, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, je vais sélectionner un cornerback. Et non, je vais passer sur Caleb Farley parce que je pense que Arizona va craindre également ses soucis de dos. Donc, je pars sur celui après, Jesse Horn de South Carolina, qui pour moi va faire une belle carrière au poste de corner en NFL. Il est intelligent, il est hyper agressif, c'est un pot de colle sur le receveur, je cherche les mots. Il a quelques défauts, on en avait parlé dans une autre émission, il a des problèmes de constance, il part des fois un petit peu à la chasse aux papillons, comme tu avais l'expression que tu avais utilisée.
C'est un joueur mais à cadrer, en effet.
Voilà, c'est un joueur à cadrer, mais c'est un bon corner qui est un titulaire en puissance dès la première semaine en septembre. Et de toute façon, ils ont besoin de renforts. Donc, si ça veut jouer les premiers rôles dans une division de plus en plus relevée, on part sur un corner.
Si je veux troller, je te dirais que Kingsbury, c'est le bon choix pour encadrer DC Horn. Mais ça, c'est pour ceux qui savent que j'adore Kingsbury. Mais au-delà de la blague, voilà, c'est un choix qui revient assez souvent. Et en effet, il y a quand même ce coffre intéressant qu'offre DC Horn, voilà, ne serait-ce que d'un point de vue physique, l'espèce de combo physique-rapidité. C'est vrai que là, c'est quand même pour compenser le départ notamment d'un Patrick Peterson, puisque je ne sais plus qui ils avaient signé pendant l'intersaison à Arizona, j'ai un doute malheureusement, ils ont signé un corner vétéran, donc non m'échappe.
Butler. Hein.
Ah oui, Butler, oui, merci, ouais, c'est ça. Donc, avec DC Horn à couver derrière, ce ne serait pas forcément une mauvaise solution, puisque voilà, en dehors de ça, je crois qu'il reste Alford et Murphy, qui n'ont pas toujours assuré dans ce backfield défensif, en tout cas sur l'extérieur. Donc, voilà, à voir éventuellement ce que ça peut donné pour les Arizona Cardinals. Seb, Mehdi, le premier d'entre vous, qui est d'accord globalement avec cette sélection de JC Horn Arizona?
Un oui, corner, parfait. Donc.
Bon, d'accord. Je t'ai pas entendu, Seb, mais du coup, a priori, t'es
d'accord. Oui, tout à fait. Ouais, il fallait un corner.
Excuse-moi, j'ai donc récapitulé cette deuxième partie donc, de mock draft. Donc, on avait Patrick Surtain, cornerback d'Alabama du côté de Denver. On avait les Bears qui sont donc montés au 10e choix pour récupérer Trey Lance, quarterback. Les Dolphins montent également au 11e pour récupérer Micah Parsons, linebacker. Les Eagles, avec leur 12e choix, sélectionnent Devonta Smith, receveur. Après, donc, c'est un enchaînement de tackle. Rashawn Slater du côté des Chargers et Christian Dariso chez les Vikings. Les Cowboys montent en 15e choix pour récupérer Quitty Pay, c'était ce fameux choix qui était vanté par Denver Broncos FR. Et puis donc en 16e choix, donc JC Horn, cornerback de South Carolina, du côté d'Arizona. Troisième partie donc pour cette mock draft, on commence avec Mehdi, le 10e choix et les Las Vegas Raiders sur l'horloge. Il y a une free agency un peu compliquée à faire oublier. Quel est ton choix pour la faire oublier?
Je pense qu'ils ont manqué de pass rush la saison passée et donc je partirai sur Jason Oweh, le edge. Donc assez complet et pour apporter un peu de pression sur le quarterback et en plus qui peut couvrir quand même pas mal de choses, qui peut couvrir du terrain et grâce à sa vitesse couvrir les running backs. Donc je pense que ça peut être pas mal.
Seb, Alex, un avis?
Ouais, j'étais peut-être un petit peu surpris, je serais peut-être allé sur la ligne offensive, mais il fallait aussi du pass rush du côté de Vegas, donc j'ai pu en profiter juste derrière.
Je rigole parce que je vois qu'on a Jean-Michel sur le chat qui me dit « Faites très attention ». Alors ça, c'était avant le pic, je crois. Mehdi, je crois que tu vas avoir des retours. Non, après, c'est possible. On sait qu'ils ont signé Yannick Ngakoue pendant l'intersaison pour appuyer notamment Max Crosby. Après, ça peut être un projet, en effet, pour avoir une rotation. Ce ne serait pas la première équipe, en effet, à vouloir absolument blinder l'ID line pour être vraiment dominateur au sein d'une défense qui a été un petit peu calamiteuse, notamment sur certaines rencontres en 2020. Mais c'est vrai, je rejoins un peu Seb. C'est vrai que la ligne offensive, ça va forcément être une discussion inévitable. Mais voilà, je pense que les tranchées, en règle générale, vont être une discussion importante du côté de Vegas pendant cette draft 2021. On passe au 18e choix pardon, à présent, qui était initialement détenu par les Miami Dolphins. Ce sont désormais les New York Giants qui sont sur l'horloge après l'échange qui a vu donc Micah Parsons rejoindre les Dolphins. Seb, c'est donc à toi. Qui vois-tu atterrir du côté de la grosse pomme?
Je suis parti en défense avec Jeremiah Owusu-Koramoah. Donc, une grosse DL. Tout le monde va voir que Blake Martinez est une vraie escroquerie, donc il fallait...
C'est fait.
Voilà.
Ah, c'est un ancien Packers, on le rappelle.
On sent la souffrance et les cicatrices. Hein. Je le partage.
Ah oui, tout à fait. Ah, franchement, ça m'a fait du mal l'an dernier.
Disons que c'est un peu unidimensionnel, n'est-il pas?
Voilà, tout à fait.
Chouïa.
Voilà. Donc, avec la grosse DL qui se sont fait devant, laissez courir les trois et lui, il fera le reste. Il ira chercher le quarterback. Il pourra reculer si besoin. Une aubaine en 18.
Très bien. Alex, je ne me demande pas si tu es d'accord sur Martinez. Est-ce que tu es d'accord sur Owusu-Koramoah?
Oui, je suis d'accord sur Wusu Karamoah. En plus, il a l'avantage de pouvoir jouer dans des schémas un petit peu plus hybrides, dans un poste soit de slot corner, soit voilà, peut-être de troisième safety. Enfin, il est vraiment très polyvalent et peut apporter sur cette couverture aérienne. C'est un bon choix pour les Giants pour faire vraiment cette défense ultra dominante. Je ne sais pas si c'est le mot, mais dominante. En tout cas, l'année dernière, très satisfaisante. Et je pense que ça peut être qu'un renfort de plus, vraiment, vraiment complet.
Mehdi?
Ah, c'est d'accord, c'est un joueur polyvalent, donc peut être très utile à la défense des Giants.
Je reviens juste sur le choix de Vegas tout à l'heure. Donc il y a Didier Cognier qui nous dit Mehdi interdit de séjour à vie à Vegas. C'est un peu extrême quand même.
Moi je compte pas y aller donc ça.
Voilà, Luc nous disait j'aurais pris Barmore, ça me paraît encore un peu haut, mais pourquoi pas éventuellement. Hein, et Kiki Stardust qui plébiscitait également la O-line. En l'occurrence, mais bon, on attendra à voir ce que va donner Vegas. On a dit il y a quand même pas mal de besoins. En l'occurrence, j'essaierai de surveiller également le choix des Giants. Denver Broncos FR, qui j'aime bien. Joke du côté des Giants. Et Ariel 82 qui nous dit j'aurais préféré O'Julleri, qui est une autre possibilité sur le pass rush. Mais là encore, il y a une classe assez profonde malgré tout sur le pass rush, notamment sur les deuxième et troisième tours. Donc je ne sais pas s'il y aura forcément besoin de rusher, a priori, sur ce premier. 19e choix, Sébastien, on te retrouve. Cette fois-ci pour une autre équipe d'NFC Est, la Washington Football Team. Qui as-tu choisi?
Allez, je suis parti donc sur les tranchées, mais offensive avec Samuel Cosmi. Donc avec l'arrivée de Fitzpatrick et Curtis Samuel, plus Terry McLaurin. Donc ça va être rock'n'roll l'année prochaine du côté de la capitale fédérale. Donc il fallait protéger Fitzpatrick, sinon il va nous sortir une saison à 30 passes, 30 interceptions. Donc grand athlétique. Il a encore un petit souci au niveau du placement de main. Au niveau des appuis aussi, c'est un petit peu resserré, mais c'est rien de bien méchant. Il va prendre du muscle, je pense qu'il commencera à droite dans un premier temps, avant de basculer à gauche, et là, il sera tranquille pendant une bonne dizaine d'années, je pense.
Oui, c'est le fameux problème qui se pose avec le fait d'avoir laissé partir Trent Williams, qu'en l'occurrence, ils avaient pris Sadiq Charles, je crois, l'ancien de LSU l'année dernière, oui. Qui semble un peu plus parti pour être performant sur l'intérieur que sur l'extérieur, en tout cas, qui ne présente pas toutes les garanties. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Cornelius Lucas, leur tackle gauche, oui. L'année passée. Ça fait quand même un peu léger, a priori. Et... Non. Et comme tu disais, Seb, c'est vrai que ce qui joue en faveur de Cosmi, c'est vraiment ce côté hyper athlétique, hyper mobile. Il y a du gabarit à prendre, mais ce n'est pas ce qui est le plus problématique, a priori, en NFL.
Oui, il y a un peu de poudre magique, et puis c'est bon.
T'appelles ça comme ça? Ouais. Mehdi, un avis là-dessus?
Non, bah, de toute façon, il faut protéger Fitzpatrick, donc pas de souci à ce niveau-là.
Très bien. Alex, il me semble que tu as donné ton avis globalement, mais vas-y.
Je valide totalement le choix de position. Moi, j'ai un coup de cœur pour un autre joueur, donc j'aurais choisi un autre tackle. Par contre, clairement, la logique de protéger, enfin de renforcer cette ligne qui est vraiment affreuse, c'est... Si eux aussi, ils ne sont pas dans la course pour un quarterback, ce que je ne pense pas cette année, ils vont partir sur un tackle.
Ton autre choix, on t'accueille, il vient de Californie?
Non, il vient d'Indiana.
Ah, d'accord.
Pas qu'un petit peu connu en Indiana.
Il paraît. Bah Alex, justement, j'ai trop donné la parole avec le 20e choix hein, que tu avais initialement avec Chicago. Tu as choisi de monter avec Dallas, mais finalement, tu te retrouves quand même avec ce 20e choix avec Atlanta. C'est un peu compliqué, il faut suivre. Mais en tout cas, c'est toi qui vas choisir parce que les Falcons donc, ont cédé leur 15e choix aux Cowboys et se retrouvent en position pour le 20e. Plus de trade down désormais, c'est fini. Atlanta choisit son joueur. Quelle direction prends-tu?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ben, je pense qu'Atlanta va sortir gagnante de ces doubles trade-downs parce qu'en 20e choix, ils vont sélectionner Jalen Phillips, défensif end ou outside linebacker, ça dépendra du schéma. Enfin, ça dépend des schémas. Donc, Jalen Phillips de Miami, c'est un super joueur qui peut évoluer, donc, comme j'ai dit, dans les deux systèmes. C'est une aubaine pour Atlanta qui a besoin de renforcer son pass rush. Ils ont besoin de renforcer leur défense en général. Je ne pense pas que tu me contrediras là-dessus. Et il est hyper complet, hyper polyvalent. C'est un des, certainement de tous les pass rushers, celui qui est le plus NFL ready, malgré un historique de blessure plus que chargé, puisqu'il a quand même mis sa carrière entre parenthèses pendant plus d'un an. Il est revenu simplement au foot l'année dernière et il a brillé. Il a vraiment fait une deuxième partie de saison fantastique et il a l'avantage en plus d'être très bon sur le jeu de course. Donc, c'est vraiment un profil. En plus, il a le vent en poupe. Donc, en 20, ça me paraît être une aubaine, surtout après être descendu deux fois et en récolter des choix au passage. C'est voilà, c'est mon presque mon pass rusher préféré cette année. Donc, je suis très content de pouvoir le sélectionner pour Atlanta.
Eh bien, j'en suis ravi également. En effet, c'est le troisième pass rusher du coup en six choix, si je sais compter. Donc oui, c'est sûr que il y aura quand même a priori pas mal de choix, mais plutôt en deuxième partie de premier tour. Donc c'est vrai que c'est là-dessus où ça me paraissait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on s'est plus ou moins concerté malgré tout, puisque c'est moi qui t'ai fait la proposition de trade à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça me paraissait pas forcément farfelu de descendre dans la deuxième partie du premier tour pour éventuellement aller chercher un edge rusher. Seb, Mehdi. Ça vous va globalement, Edge Rusher, Philippe ou un autre d'ailleurs?
Non, Philippe.
Philippe, ouais.
C'est un nom qui grimpe, hein. C'est vraiment un joueur qui a eu un petit peu de. Alors, je sais pas si c'est un petit peu de mal, mais en tout cas, qui était une recrue phare à UCLA, qui s'est pas forcément fait sa place, ou en tout cas avec un coaching staff qui a vite bougé. Et ouais, on a vu du côté de Miami toutes les qualités qui étaient les siennes. Donc voilà. Je vous rejoins notamment sur le côté extrêmement hybride. Ça peut être quelque chose d'intéressant dans le nouveau schéma défensif de Dean Pease. 21e choix à présent, Mehdi, on revient vers toi pour le choix des Indianapolis Colts. Pas mal de directions possibles, mine de rien, hein, malgré l'effectif relativement complet. Qui a tes préférences du côté d'Indy?
Avec le départ de T.Y. Hilton et qu'il n'y a pas forcément de receveur numéro 1, je partirais sur Rashad Bateman, un nom qui monte en ce moment, qui est une bonne hype. Je trouve qu'il est très polyvalent, très complet. Et je pense qu'il peut devenir, pas forcément tout de suite le receveur numéro 1, mais être une très bonne arme pour Carson Wentz.
Alors juste petite rectif, il me semble que T.Y. Hilton a signé. Mais
Ah,
je ne sais pas pour combien de
pardon.
temps et ça interdit pas, parce
Saison.
qu'on rappelle que Hilton. Combien?
Une saison.
Une
Ah,
saison,
une
voilà.
saison, ma pardon.
Donc ça reste quand même une possibilité pour former un autre receveur derrière. Mais on l'a dit, ils ont des possibilités dans les tranchées également. Mais ouais, receveur, ça reste une possibilité très clairement, surtout s'ils veulent un vrai numéro 1. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, c'est
Michael
forcément le choix qu'ils ont
Pittman
pour. Ouais, pour Pittman et Campbell, ça me paraît pas forcément leur rôle à titrer, mais Seb, Alex, un avis là-dessus?
Ouais, je serais peut-être parti
Je suis d'accord.
avec Liam Eikenberg, mais bon, un receveur, ça se tient aussi avec Batman. Ils n'ont pas vraiment de numéro un, comme tu l'as dit, donc ça s'entend.
Alex?
Ouais, moi, je trouve que la logique est excellente pour relancer Carson Wentz. S'il a besoin de cible, Batman, il a l'air d'être vraiment super fiable et lui aussi prêt à produire tout de suite. Donc, très bien.
Ouais. Après, alors, sur le chat, ça couine un peu. Enfin, ça, c'est un peu plus étonné. Photo Biedo, notamment, qui attendait le choix des Colts avec impatience. Vincent qui nous dit, j'aurais pas pris un receveur au premier tour. Après, c'est vrai que ce que nous dit Pierre aussi, c'est que Hilton, Pittman, Bateman, sur le papier, ça a de la gueule, très clairement. Ça, c'est sûr qu'on pourra pas le retirer. On sait qu'ils impliquent beaucoup les tight ends également, même s'ils ont changé de coordinateur offensif pendant l'intersaison. Donc, mais a priori, je ne serais pas étonné que Frank Reich continue de miser sur des tight ends impliqués assez massivement, même s'il n'y a pas d'énormes playmakers. Donc, ouais, ça donne quand même ça donnerait une force de frappe offensive intéressante. Du côté d'Indianapolis, il y a possibilité éventuellement de prendre un tackle un petit peu plus loin, éventuellement de toute façon. 22e choix, il est pour moi et on reste dans l'AFC Sud avec les Tennessee Titans. Alors, je vais le préciser d'emblée aux fans de Tennessee, je me suis battu pour chercher un trade down que je n'ai jamais trouvé. Personne n'était intéressé par le 22e choix. J'ai donc dû me résigner à choisir donc pour Tennessee. Et à l'heure actuelle, dans les postes qui me semblaient prioritaires, je suis quand même parti sur un receveur. L'attaque a été moins inquiétante que la défense l'an passé. Après, en dehors d'AJ Brown, j'ai du mal à voir de réelles menaces. Il me semble qu'ils ont signé Josh Reynolds des Rams, mais ça me paraît quand même un peu léger pour être un vrai numéro 2, ce qui n'était même pas du côté de Los Angeles, hein, malgré certains bons matchs. Donc, c'est vrai que pour moi, ça me paraît important, encore plus dans le sens où je l'avais signalé du côté de Baltimore, enfin, en tout cas, lors du match de playoff contre les Ravens, il y avait eu cette difficulté à apporter un peu de variété derrière le côté bulldozer de Derrick Henry et avoir vraiment un receveur capable d'être menaçant sur des screens, sur des jet sweeps, capable d'étirer vraiment les défenses et de proposer encore plus de variété. La variété qu'a jamais pu apporter, par exemple, un Adam Humphries. Je pense que c'est ce qui manque malgré tout à cette attaque et ce qui peut leur faire le plus grand bien. Donc après, je suis parti sur Kadarius Toney, receveur de Florida. Il peut y avoir d'autres préférences, hein. Les receveurs explosifs, c'est pas ce qui va manquer, mais je pense que Toney a quand même cette capacité à être performant très rapidement. Et je sais qu'il y a du monde à publiciter également Elijah Moore, par exemple, un autre receveur d'Ole Miss en l'occurrence, que j'ai pas forcément vu sur beaucoup de séquences du côté d'Ole Miss, malheureusement, durant ces derniers mois, universitaires. C'est aussi ça qui m'a incité à partir vers Kadarius Toney. Un avis, messieurs, receveur oui ou non, Toney, oui ou non?
Oui, oui.
Je serais peut-être allé vers le backfield défensif qu'ils ont totalement déplumé pendant la free agency avec les départs de Jackson, de Butler et de Vaccaro. Cela dit, moi je trouve quand même que ça reste un bon choix parce qu'il y a aussi donc Corey Davis qui est parti et Adi Brown, il peut pas tout faire. C'est un profil hyper explosif et ça devrait le faire.
Très bien. Seb, j'ai pas demandé du coup.
Ouais, très bien aussi. Ouais. Petit couteau suisse, je pense qu'il peut rendre des services à l'équipe.
Très bien. On passe au 23e choix à présent avec les New York Jets sur l'horloge. Eh bien non, messieurs, je m'incruste encore pour faire un choix avec le 23e. Puisque je monte de 3 positions pour sélectionner avec les Cleveland Browns. Du coup, en contrepartie, j'avais noté 4e tour. Hein. Donc après, c'est en fonction. Les Cleveland Browns, donc, ils montent en 23e choix pour sélectionner ce qui est peut-être pour moi le dernier linebacker vraiment d'impact au premier tour, Zaven Collins, linebacker de Tulsa. C'était un choix qui me paraissait important dans le sens où il y a des playmaker sur la ligne défensive, enfin, il y en a un en tout cas, il y a un playmaker notamment sur le backfield défensif, mais j'en vois pas encore sur le deuxième rideau, malgré la signature très sexy, j'ai oublié son nom, c'est Anthony Walker, j'ai oublié son nom à l'ancien linebacker des Colts, et c'est vrai que bon, c'est le fait d'ajouter Zaven Collins donc sur ce deuxième rideau, ça donne en effet la capacité d'avoir un joueur extrêmement dangereux dans beaucoup de secteurs, notamment contre la passe. On sait par exemple que Baltimore aime bien jouer sur son tight end, hein, Mark Andrews. Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée d'ajouter un linebacker qui sait extrêmement bien courir, comme ça peut être le cas de Zaven Collins. Donc voilà, il y a des besoins sur le poste de Edge par exemple, mais je pense que Cleveland peut être une équipe qui réussit à récupérer un Jadeveon Clowney par exemple. C'est ce qui m'a notamment incité à partir plutôt sur la position de linebacker. Votre avis, messieurs?
Moi perso, j'adore Collins, donc... J'espère que s'il tombe en 23, Green Bay aura le sang nécessaire pour remonter. Donc, je ne vais pas te contredire là-dessus.
Messieurs, Mehdi, Alex, ça vous va globalement?
Oui.
Oui, on avait parlé dans une émission, Zaven Collins, au Browns, c'est un petit peu, comme tu l'as dit, le chaînon manquant de défense assez dominante.
On va en parler, tu veux dire? Attention, cette émission a été enregistrée, mais normalement les Browns arrivent dans quelques jours.
C'est vrai, c'est demain.
On s'est vendu, c'est pas grave. Mais ouais, en tout cas, bon, globalement, ça a l'air de vous satisfaire sur le chat, Zaven Collins. Donc c'est une très bonne chose. On va pouvoir terminer cette troisième partie avec le 24e choix, Alex, les Pittsburgh Steelers. Quelle direction? Est-ce que tu pars sur la O-line ou est-ce que tu choisis autre chose?
Ben, je pars sur la O-line. Voilà. Clairement, j'ai vu pas mal de running back associés aux Steelers. Oui, c'est un besoin, mais la classe est profonde. Je pense qu'ils peuvent attendre. Donc, je pars sur Alijah Vera Tucker, le guard slash tackle d'USC. Ça tombe bien. Ils ont des besoins aux deux positions. Donc, ils vont pouvoir décider où il sera le plus performant. Il est super bon pour la protection de passe et c'est ce dont Big Ben et ses années au compteur ont besoin. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément mon tackle préféré qui reste sur le board disponible, mais par contre, de par sa polyvalence, je pense que c'est le joueur qu'il faut au silence.
Ouais, c'est ça. La question, ça va être de savoir oui, si qui ils envisagent en tackle gauche au final, parce que c'est vrai que bon, au corps à fort ou Banner, ça fait encore peut-être un petit peu léger sur le poste, même si Banner a démontré certaines choses. Mais ouais, c'est vrai que Vera Tucker, encore plus dans le style des Steelers, je pense que ouais, ça apporte quand même un côté tarteur, si je peux parler comme ça. Mais ouais, en tout cas, il va rapidement s'acclimater à la région, je pense. C'est pas ce qui peut lui faire le plus peur a priori. Un autre ancien du USC, hein, d'ailleurs, justement, je parlais de Banner, il y a Smith-Schuster également. Donc la connexion resterait forte entre les Troyans et les Steelers. Mehdi, Seb, un avis sur cette sélection? Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous seriez reparti sur une autre direction?
Non, perso, la ligne, donc là, c'est bien, comme l'a dit Alex, ils ont des besoins à l'intérieur, ils ont des besoins à l'extérieur. Après, en fonction des entraînements de printemps, en fonction de cet été, ils prendront la décision, mais bon choix possible. Le meilleur choix possible, je pense, à cet instant-là.
Mehdi, ça te va globalement?
Pareil, ils ont des besoins en online, donc après que ce soit Vera Tucker ou un autre, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est un bon choix.
Très bien. Guillaume nous proposait également Creed Humphrey, hein, lui qui suit les Steelers de près. Après, c'est vrai qu'ils ont fait revenir BJ Finney, par exemple, à mettre en concurrence avec Jesse Eisenhower, donc je sais pas, c'est pas forcément des superstars, hein, entendons-nous bien, par rapport à ce que peut apporter un Humphrey, mais il y a déjà un peu plus, en tout cas, de possibilités de titulaire dans ce duo-là, que sur le poste de tackle qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Il y a le camarade Latrell qui me disait, Greg, c'est le pick 2 des Jets qu'il fallait trade down. Désolé, Latrell, hein, je suis désolé. Apparemment, la news Zach Wilson est toujours passée. Et je m'en excuse. Un récapitulatif donc pour cette troisième partie de draft. Pour rappeler donc qu'avec Las Vegas, on a sélectionné Jason Owi, defensive end de Penn State. Les Giants donc étaient redescendus en 18e choix, après Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker. Samuel Cosmi, tackle de Texas du côté de Washington. On a Jalen Phillips, le defensive end de Miami qui finit à Atlanta. Et ensuite, on a deux receveurs, Rashad Bateman du côté d'Indianapolis et Kadarius Toney du côté de Tennessee. Et puis enfin, donc, Zeven Collins, 23e choix pour les Browns, donc qui monte de 3 positions. Et Alijah Vera Tucker, sélectionné par Pittsburgh. On entre dans la dernière ligne droite, messieurs, de cette mock draft avec le 25e choix des Jacksonville Jaguars. Sauf que non, je vois cette news qui s'affiche sur mon téléscripteur, comme on disait naguère. Sachez, messieurs, qu'on a réalisé une première dans cette mock draft. Mehdi échange avec lui-même. Puisque ce sont donc les Green Bay Packers qui montent de 4 positions. Alors, vous noterez que je m'organise très bien quand j'attribue les différentes équipes, parce qu'on a donc 2 fans des Packers, mais c'est le seul qui n'est pas fan des Packers qui récupère le choix de Green Bay. Mais je crois que c'était globalement un choix qui ne vous dérangeait pas, messieurs, en tout cas le fait de trade-up. On en reparlera tout à l'heure. Qui tu sélectionnes avec le 25e choix pour les
Packers? Je me suis aidé d'Alex et de son podcast avec les Packers, et je vais prendre Greg Newsom, le cornerback. Donc, à la 29e position, je suis pas sûr qu'ils soient encore dispo ou qu'un autre cornerback soit dispo, donc je préfère monter un tout petit peu pour être sûr d'avoir le joueur que je veux. Enfin, que les Packers veulent.
Bon, Alex, je ne m'en pas si tu es d'accord, hein, le fameux jumeau de Jair Alexander, ça te va même avec un trade-up?
Oui, parce que là, c'est un trade-up qui va coûter un 4e tour. A priori, il y a 2 4e tours aux Packers. Donc, il faut le sécuriser. C'est un très bon choix. C'est un risque calculé.
J'ai même été plus vicieux que ça. J'avais vu qu'ils pouvaient éventuellement échanger la fin de 3e tour des Packers avec le début de 4e tour des Jaguars. En termes de points, ça maturait.
Ah bah c'est même presque encore mieux. Parce que ça laisse autant de choix.
N'est-il pas? Seb, est-ce que tu es d'accord sur le trade-up et sur Greg Newsom également?
Oui, là, le trade-up, je pense que le soir de la draft, vers la 21, 22, 23e place, je pense qu'ils vont l'étudier. Le poste de corner est à considérer, il n'y a pas de souci. Moi, comme je t'ai dit, je préférais que Zaven Collins. Pourquoi? Parce que Joe Barry est quand même spécialiste des linebackers. Je pense qu'il voudra son petit poulain à bichonner tranquillement. Mais bon, Newsom, il n'y a pas de souci. J.R. Alexander est trop faible maintenant. De toute façon, dans la NFL moderne, les quarterbacks vont viser le point faible de l'équipe. Le point faible, c'est Kevin King. Donc, autant le remplacer par quelqu'un qui fera mieux que lui.
Très bien, j'aime cet amour. En tout cas, BitBat n'est pas du tout d'accord avec vous sur le chat. Il faut le savoir. Il y en a marre des cornerbacks, nous dit-il.
Ouais, il y en a marre de prendre des gros jeux tous les matchs aussi.
Ah, c'est sûr que bon, ceux qui ont vu la finale de conférence NFC ne sont peut-être pas d'accord avec toi. Non, après, il y avait des gens qui étaient à peu près d'accord. Alors, il y a Pierre qui s'étonnait que ce soit Newsom plutôt que Farley.
Après, la blessure au dos de Farley... pose question, celui qui n'a pas joué, il a décédé d'opt-out la dernière saison. Donc, je pense. Après, je me suis aidé aussi quand même du podcast sur les Packers.
C'est bien.
Alex, j'avais l'air amoureux de Newsom, je suis allé.
Tu as voulu être conciliant avec ton camarade, c'est formidable, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'après, ouais, c'est deux joueurs un peu fragiles, mais voilà, après, c'est une question de préférence. Hein. Ça dépend en effet si on veut avoir deux joueurs à peu près. Sur le même profil ou vraiment avoir un Caleb Farley qui apporte peut-être autre chose que Jair Alexander, ce sera en l'occurrence à déterminer. 26e choix, donc, qui n'est plus la propriété des Cleveland Browns. Les New York Jets sont désormais sur l'horloge. Et Seb, je te redonne la parole. Qui prend la direction de New York?
Eh bien, on en parlait juste à l'instant, Caleb Farley. Donc, des besoins à considérer de partout au niveau des Jets. Donc, on part sur le dernier rideau défensif. Avec celui qui reste malgré sa douleur au dos, c'est vrai que ça va être handicapant, j'en sais quelque chose, notamment pour changer de direction, monter pour contester les ballons. Mais bon, le talent est là. Après, ça se remet progressivement en place. J'ai pas trop de doute là-dessus.
Certains diront que c'est pas très grave qu'elle ait forlé, vu que les fans des Jets avec Ananagaz en avaient déjà plein le dos. Donc voilà, ça c'est pour la poupoumtch. On passe à autre chose. Mehdi, Alex, un avis. Est-ce que Caleb Farley, ça vous paraît considérable au premier tour malgré ces fameux soucis-là? Est-ce que les Jets, c'est la bonne direction pour vous?
Alors, en tout cas, ils ont besoin de corner. Parce que Bryce Hall, il est un peu juste. Enfin, il est un peu juste. Il est bon, mais il est un peu seul. Donc clairement, Farley qui descend comme ça, ça reste une belle opportunité et un risque calculé à prendre. Effectivement, c'est un gros un pari sur sa blessure au dos, surtout alors qu'il n'a pas joué. Mais vu l'opportunité, si ça marche, ça marche très très bien.
Oui, cette possibilité d'être numéro 1, Mehdi, un avis pareil. Là-dessus.
Il faut, pour moi, c'est un no-brainer pour les Jets. Il faut aller chercher un cornerback assez vite. Donc avoir Caleb Farley en 26, c'est parfait.
Très bien. Bah, écoute, alors Riri Fifi nous dit un corner pour les Jets, j'aime bien, mais je préfère un lineman pour protéger justement Wilson. Ça peut être une piste, hein, mais il y a beaucoup de choix de draft hein, pour les Jets. Surtout qu'on l'a dit, hein, sur cette draft, ils ont fait un trade down, donc ils ont récupéré encore d'autres choix derrière. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même moyen de continuer de compléter un petit peu cette équipe. Donc voilà, mais là, en 26e choix, l'occasion fait un peu le larron, comme on dit. Seb, on reste avec toi, 27e choix. Les Baltimore Ravens sont sur l'horloge. Il y a pas mal de possibilités malgré tout. Laquelle as-tu retenu?
Moi, je suis parti pour remplacer Matt Judon, donc au niveau du pass rush, et je suis parti avec sur Joseph Osai. Donc, Ojulari Osai, moi j'ai préféré miser sur l'expérience du Texan. Voilà.
Très bien. Linebacker de Texas, peut-être un profil un peu plus polyvalent. Alors, je dis ça, Ojulari est parfaitement capable de le faire, mais c'est vrai qu'on a vu qu'Osai, en effet, avait quand même cette aptitude, je trouve. Comment dire ça? On dira qu'au niveau du gabarit, je trouve qu'il ressemble déjà un peu plus à un Matt Judon.
Voilà, c'est ça. Après, Ojulari, voilà, c'est. Il y a le potentiel, il n'y a pas de souci. Hein. J'hésitais entre les deux et j'ai vraiment misé sur lui. Voilà, il m'a fait la meilleure impression quand j'ai regardé ses vidéos. Donc, je suis parti sur lui.
Très bien. Question de préférence, cela se respecte. Mehdi, Alex?
Moi, ouais, c'est d'accord. Partir sur Osai pour remplacer Matt Judon, qui était un bon élément dans la défense des Ravens, ça me semble assez un bon choix.
Ouais, moi, je suis surpris par notre manque de respect envers Grégory Rousseau.
mais il après, c'est vrai. Super prodé, apparemment.
Non, mais c'est vrai que là où je rejoins Sébastien, c'est que Osai, il correspond davantage au système des, des Ravens, donc voilà, Rousseau attendra encore un peu.
Oui, écoute, ce sera une aubaine du début de deuxième tour, au pire des cas. Même si ce premier tour n'est pas terminé, on le rappelle, il y a encore 5 choix à faire, mais en l'occurrence, on a donc choisi la direction du edge rusher donc pour les Ravens. Hein. On vous rappelle, d'ailleurs, il y a la capsule audio. Hein. Là, on va parler que des équipes, notamment, dont vous retrouvez d'ores et déjà des pastilles audio sur le site de TDA. Sur Baltimore, on s'était un peu gratté la tête aussi. Il y avait pas mal de directions possibles, et celle du edge rusher s'entend parfaitement. 28e choix, les New Orleans Saints étaient sur l'horloge, je dis « étaient » puisqu'il y a de nouveau un trade. Messieurs, notre premier trade issu du deuxième tour. Les New York Jets montent pour justement aller récupérer l'autre pass rusher qui n'a pas été sélectionné par les Ravens, Aziz Ojulari, sélectionné par les New York Jets. Je le disais, il a un physique actuellement de side linebacker. On sent qu'il a quand même se builder un peu pour vraiment être performant sur un front fort qui semble a priori être la direction privilégiée par Robert Saleh et son coordinateur Jeff Ulbrich. Donc je pense que ça peut être un profil extrêmement complémentaire de Carl Lawson et surtout deux joueurs qui peuvent être assez polyvalents et être efficaces et sur la passe et contre la course. Donc ça me paraissait important. Alors certains vont me dire oui, mais l'attaque c'est peut-être encore plus important que la défense, qui n'était pas forcément catastrophique sous Greg Williams, malgré quelques sorties un petit peu délicates et malgré quelques petits soucis de profondeur. Ça me paraît quand même important, surtout quand ton nouvel head coach est un coach défensif, d'instaurer vraiment, d'être assez complet sur pas mal de lignes. Et je pense qu'avoir un cornerback numéro 1 plus un possible edge rusher d'impact immédiatement, ce ne sera pas forcément pour déplaire au head coach new-yorkais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré monter à la fin de ce premier tour pour permettre aux Jets de récupérer un deuxième défenseur performant. Messieurs, est-ce que vous avez un avis là-dessus, le premier? C'est unanime. Je crois qu'on peut le dire. Je pense que je...
Non, mais même réflexion que précédemment, toujours avec Rousseau. Mais pareil, toujours d'un point de vue schéma, au Ojulari, je te rejoins aussi. Mais de toute façon, je les vois vraiment bien remonter dans ce premier tour pour aller chercher justement le pass rusher qui pourrait descendre un petit peu. Donc le choix est tout à fait cohérent.
Ouais. Là aussi, il y a la possibilité d'un running back. Hein, mais je l'ai dit tout à l'heure, deuxième, troisième tour, si tu vas chercher, admettons, un Michael Carter ou un Kenny Gainwell avec un running back vétéran, sachant qu'il en reste quelques-uns encore sur le marché, c'est pas forcément quelque chose d'incohérent à mon sens, en tout cas. Bon, Seb Mehdi, du coup, vous êtes globalement d'accord là-dessus?
Oui.
Très bien. Bon, en tout cas, on aura noté qu'Alex est un fanboy absolu de Gregory Rousseau.
Non, je n'irai pas jusque-là, mais en 27-28, quand même.
Oui, on est d'accord. Ça reste quand même dans les eaux où on l'estime.
Après,
on
dirait. Je comprends les réserves. Je comprends les réserves.
29e choix, on revient avec toi, Mehdi. Du coup, tu sélectionnes avec les Jacksonville Jaguars. Quel sera ton choix avec cette 29e sélection?
J'ai donné une arme à Trevor Lawrence. Je vais mettre Rondale Moore. Donc, avoir un petit joueur gadget très explosif dans le slot au début. Et je pense que ça peut aider Trevor Lawrence.
Ça
Après,
peut
être une... juste faire attention, malheureusement, ses blessures. Ça peut être un frein. Mais je pense qu'il, de toute façon, il sera fin premier tour, début deuxième. Mais je pense que ça peut être une très bonne idée.
Bah, la question qui va être à se poser, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tight end, même si l'escouade de receveurs n'est pas infamante à l'heure où on se parle. Hein. Je crois que c'est DJ Shark, Marvin Jones et Laviska Shenault. Autre joueur un peu gadget, mais qui n'a pas du tout le même physique.
Ah non, c'est ça, voilà.
Voilà, donc tout dépend de ce qui sera mis en place par Urban Meyer et son coordinateur Darrell Bevell, mais on peut très bien avoir une possibilité d'attaque extrêmement écartée avec 4 receveurs plutôt qu'un tight end. Extrême, voire en tout cas des tight ends pas mal sollicités, donc même si les Jaguars ont d'autres choix dans les 3 premiers tours, Rondale Moore c'est pas forcément une mauvaise solution en soi.
Ils ont pas de receveur, on va dire, spécialisé sur les screens, les petits tracés, et je pense Rondale Moore il coche toutes les cases, donc je pense que ça va être vraiment utile pour l'attaque des Jaguars.
Alex, je te vois songeur.
Non, non, je partage. Ça m'a surpris au début, mais je partage en fait l'avis de Mehdi parce que, avec Trevor Lawrence comme quarterback, il va se retrouver avec un quatuor de cible quand même assez sympa et plutôt complémentaire. Hein, on l'a dit, Shark, Jones, Chenault et Lamour, ça fait vraiment une palette large. Et pour laisser exprimer tout son talent, c'est une bonne chose. Après, on aurait pu le protéger un petit peu, mais ça peut venir. Hein, ils ont un choix dans pas longtemps encore.
Seb?
Je serais peut-être allé sur le poste de Titan ouais, avec mon collègue Pat Fryermousse.
Vadrouille.
Ah, Pat, oui.
Voilà, tu peux l'aligner sur l'extérieur. Il peut jouer dans le slot. Il a de bonnes mains. Une arme sur la zone intermédiaire, en zone rouge aussi. Je pense que je serais peut-être allé sur celui-ci.
Très bien. Très bien, très bien, très bien. On rentre dans les trois derniers choix, messieurs. Le 30e choix désormais pour les Buffalo Bills. Alors franchement, vous me voyez arriver gros comme une maison là, parce que c'est moi qui m'en occupe. Le premier running back de cette draft 2021 prend la direction de l'État de New York. Et là, on va faire un peu de poésie. Hein. On nous a dit, ouais, bon, il y a deux running backs qui ont été draftés au troisième tour sur les deux dernières drafts. Mais c'est rien comparé à Najee Harris. Le bulldozer hyper mobile qui va permettre à cette équipe de Buffalo d'être encore plus complète qu'elle ne l'est déjà à l'instant où on se parle. Donc voilà, j'ai privilégié le fait de vraiment se renforcer pour gagner maintenant. Les Bills ont les armes pour le faire, ont les moyens de mettre un peu moins de pression sur Josh Allen tout en lui apportant une cible supplémentaire, et ça me paraît être un no-brainer comme on dit pour les Bills, même si en effet il y a d'autres possibilités pour éventuellement construire. Alors, on a déjà parlé, la pastille a été diffusée, mais on parlait notamment d'un edge rusher en développement. Ça reste possible avec ce 30e choix, mais voilà, running back ça me paraît quand même inloupable si c'est moi qui choisis. Je demande pas à Alex s'il est d'accord.
Ça, non, bah, c'était mon choix, la première mock qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc non, je te rejoins. Après, effectivement, dans la pastille.
Ah, on a perdu coupé. Alex, je crois. On va le retrouver après. Mais dis, Seb, est-ce que vous avez un avis sur Najee Harris?
J'aurais fait exactement le même choix. L'année dernière, ils ont eu du mal au sol. Pour moi, c'est le meilleur running back de la QV, donc... Le choix s'impose ici, tout simplement.
Mehdi, je trouve que Najee Harris, il peut permettre à l'attaque des Bills de prendre une autre dimension. Donc, surtout en red zone, ça peut être très très utile.
En effet. Alors je crois qu'on a encore perdu Alex, hein, qui n'est pas encore revenu. Bon, j'espère que ça va se résoudre. Pourtant, il avait fait les réglages avant l'émission, donc c'est. Voilà, son ordi n'a pas supporté plus d'une heure, je crois. Oui. Mais en attendant, Seb, je te laisse l'honneur du 31e choix. Il nous a quittés. Je vais surveiller pour voir s'il revient assez vite. Seb, le 31e choix, l'avant-dernier. Les Kansas City Chiefs sont sur l'horloge. On sait qu'ils ont quand même quelques besoins malgré tout à considérer. Quelle est ta priorité si tu es GM des Chiefs?
Choix logique. Hein. On a viré les deux tackles. On a renforcé l'intérieur de la ligne pendant la free agency. Donc, je me penche sur un tackle offensif avec Tevin Jenkins. Donc une aubaine en 31e position. Il n'y a même pas de ce question à se poser, il faut foncer direct.
Tu privilégies ça quand même à Eichenberg. Pour toi, ça a le potentiel pour jouer à gauche, par exemple, pour remplacer un Eric Fischer?
Ah,
ouais, je pense pas immédiatement, mais je pense qu'il y a possibilité, ouais.
D'accord. Mehdi?
Non, bah, il faut protéger Mahomes. Donc, après, que ce soit Jenkins, Eichenberg, franchement, il faut le protéger. Donc, un all-line.
Très bien. Alex, re-bienvenue, du coup. Je te laisse la possibilité. Alors, on parlait de Tevin Jenkins aux Chiefs. Je te laisse éventuellement nous dire ce que tu en penses, si tu aurais pris une autre direction. Si tu veux terminer ton point sur Najee Harris et sur la sélection des Bills, je t'y autorise également.
Non, non, bah, Najee Harris, je te dis, c'était un bon choix. Je comprends ta logique. Pour Tevin Jenkins au Chiefs, c'est un besoin, donc il n'y a aucun souci pour moi, c'est un bon choix. Encore une fois, peut-être pas forcément le joueur que je préfère, mais pour remplacer Schwartz à droite, c'est un super joueur.
On termine avec le dernier choix donc, de ce premier tour, et Alex, on va te laisser la parole, puisque tu es donc le deuxième dans cette émission à trader avec toi-même, et à trader avec deux équipes de la même division. Puisqu'en l'occurrence, on avait les Kansas City Chiefs, n'importe quoi, les Tampa Bay Buccaneers, je vais faire des amis. Tu sens qu'il y a un déni un peu. Les Tampa Bay Buccaneers, donc, qui est avec le 32e choix, et qui donc réalise un trade down avec les Atlanta Falcons. Les Falcons qui rentrent donc 2, 3, 4 positions, il me semble. trois positions. Il me semble qu'ils sont 35e de base. Donc, ils montent en 32e choix pour récupérer qui, concrètement?
Pour récupérer Trevon Merrick, safety de TCU, pour moi, c'est un besoin vraiment indispensable pour les Falcons après les départs de Allen et de...
Nunil.
Je perds son nom. Voilà. donc, je
Il y
pense
a même Kizzy
le...
qui est parti, d'ailleurs.
Kizzy qui est parti. Et pour moi, le Harris, le renfort, est un petit peu juste pour être un titulaire dans une équipe qui... Je pense veut rester ambitieuse. Donc, Merrick, c'est le meilleur safety de la QV. Il est vraiment très bon. C'est un playmaker. Ça va être un leader sur le terrain. Je pense que dans le backfield d'Atlanta, qui est toujours un peu convalescent, on va dire, c'est un ajout.
Une manière de le dire.
Voilà. C'est un ajout nécessaire pour pas dire plus.
Oui. Et puis, encore une fois, je pense que avoir trois safety importants. Alors, le poste de Strong reste quand même à considérer, mais voilà, sur la free agency, il y a peut-être la possibilité encore Kenny Vaccaro, qui n'a pas signé et qui a joué dans le système d'Inpiz. Mais c'est sûr qu'un free safety, oui, tu l'as dit, Eric Harris, ce n'est pas forcément ce qui rassure le plus. Et avoir un joueur d'impact, comme on l'avait dit notamment sur la preview des defensive backs, un possible safety générationnel, à mon sens en tout cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée a priori. Mehdi, Seb, un avis là-dessus?
Ouais, bon choix. On prend le meilleur safety, sur la liste. Donc, pas de souci pour moi.
Très bien. Mehdi,
faut considérer la position de safety. Donc, le monter pour être sûr de l'avoir, ça me paraît être un bon choix.
En effet, voilà, je donne mon avis, mais je te rejoins globalement là-dessus. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Je vais faire un rapide récap donc, sur la dernière partie de ce premier tour. On avait donc Greg Newsome, corner de Northwestern du côté de Green Bay, qui était donc monté de 4 positions dans l'échange avec les Jaguars. Autre corner, Caleb Farley, qui était donc sélectionné par les Jets. 2 edge rushers pour poursuivre avec Joseph Osai à Baltimore et Aziz Ojulari aux Jets, qui font donc un trade-up avec les New Orleans Saints. 29e position, Rondell Moore, receveur de Purdue du côté de Jacksonville. En 30e choix, Najee Harris, premier running back sélectionné par les Bills. Steven Jenkins, donc Iggy Stardust, non, c'était pas lui, c'est Denver Broncos FR qui n'est Jenkins aux Chiefs avec des pleurs. Oui, un futur adversaire de division, si c'est lui en l'occurrence qui atterrit dans le Missouri. Et puis donc, 32e choix, c'est ce que disait Kiki Stardust, hein, le dit cadeau en 32, a priori, par rapport à l'adversaire de division. Trevon Merrick, donc, safety de TCU, le premier safety de cette classe. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait faire. Il y a eu pas mal d'échanges malgré tout, hein. J'en ai noté 8 au total. Donc plus ou moins la moitié, parce que du coup, il y a des équipes qui ont tradé plusieurs fois. Mais voilà, on a essayé de faire ça de manière assez, assez homogène et quand même assez complète. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait en dire, n'hésitez pas à nous laisser vos points de vue, encore une fois, dans toute bienveillance, on rappelle. Parce que le but du jeu, c'est avant tout de prioriser les besoins. Et on rappelle qu'il y aura une autre mock draft qui sera sans doute pas liée à des trades la veille, donc du grand événement, à savoir aux alentours du 28 avril. Merci encore, messieurs. Je vais juste rappeler vos comptes Twitter rapidement. Donc, Seb, c'est Sébastien TDA.
Oui, Sébastien _ TDA. Ouais.
Sébastien _TDA. Alex, Alexandre _TDA ou juste...
C'est ça.
C'est ça aussi. Vous trichez avec vos _, ouais. À chaque fois, ça me piège. Mehdi _Julien ou pas?
C'est ça.
Ah là là, vous êtes formidable. C'est bien, au moins, il y a une homogénéité. Ils ne sont pas recrutés juste pour les _, hein, je le précise aux auditeurs. En l'occurrence, et si vous voulez me suivre, c'est donc Yellow Radio ça, tout attaché, pas _ par contre. Je résiste face à l'oppression. Merci encore. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver chaque jour donc les pastilles audio consacrées à chaque franchise NFL, leurs besoins donc prioritaires en vue de la prochaine draft au cours des prochains jours. Donc là, il y a les derniers podcasts qu'on avait enregistrés avec Alex, et vous aurez très rapidement, je crois, à partir des Steelers, Jean-Michel et Victor. Pour les 8 prochaines émissions notamment. Et voilà, on vous accompagnera en tout cas jusqu'au jour de la draft, jusqu'à la fameuse mock draft live dont je vous parlais tout à l'heure, le 28 avril. Et on aura donc ce premier tour en direct le 29 et les deuxième et troisième tours le 30. Je remercie encore, bien entendu, Camille Sarabène d'avoir été avec nous comme toujours au niveau de la technique. Camille Sarabène sur Twitter, hein, si vous voulez si vous voulez le retrouver et échanger avec lui. Pas de Seahawks d'ailleurs au premier tour. Hein. Je suis désolé, j'ai tout tenté pour le trade-up, Camille, mais j'espère que tu m'en veux pas. Mais en tout cas, merci encore à toi. Et puis, on vous retrouve très bientôt donc, pour la suite de l'actualité draft. J'ai pas parlé des fiches draft, bien entendu, mais vous les retrouvez nombreuses, deux par jour en l'occurrence, un joueur offensif et un joueur défensif. On ne déroge pas à la règle. Merci encore, messieurs, et à très bientôt.
Ciao. Ciao, bonne soirée
à tous.
Bonne soirée à tout le monde.
Les jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.